À tous, j'espère que vous allez bien. C'est beau de voir comment le Seigneur prépare les choses. Merci à l'équipe de Louange d'avoir été inspirée. Merci aux paroles qui ont été apportées. Voilà, ça va dans le sens de ce que je vais partager ce matin. Je zozote pas trop, ça va? Si, un peu? Non, mais j'entends zozoter dans l'oreillette. Ça va? C'est gênant ou... Sinon, je change et l'autre micro ou... C'est bon? Vous pouvez donc ouvrir vos Bibles en Exode 13, mais avant, je vais faire un petit résumé. Voilà, comme on a des sessions entrecoupées de plein de choses, on va se rappeler là où on en est. Le peuple d'Israël... Au début de l'Exode, vit en Égypte. Il grandit et il devient si nombreux que le nouveau pharaon commence à s'inquiéter. Il les réduit en esclavage et ordonne même la mise à mort des nouveaux-nés hébreux. C'est dans ce contexte que naît un certain Moïse, sauvé par sa mère. Puis recueilli par la fille du Pharaon. Devenu adulte, il prend la défense d'un Hébreu maltraité et tue un Égyptien et s'enfuit dans le désert au pays de Madian, où il fonde une famille. Quelques années plus tard, beaucoup d'années plus tard, Dieu lui apparaît ensuite dans le buisson ardent et lui demande de retourner en Égypte pour libérer son peuple. Avec son frère Aaron, il se présente donc devant Pharaon pour réclamer la libération des Israélites. Pharaon refuse et Dieu envoie alors une série de plaies, 10 plaies, pour contraindre l'Égypte et lui montrer que seul l'Éternel est Dieu. À chaque fois, malheureusement, Pharaon s'obstine, malgré la souffrance qui grandit de son peuple. La 10e plaie est la plus bouleversante, c'est la mort des premiers-nés égyptiens. Avant qu'elle ne survienne, Dieu institue ce qu'on appellera la Pâque. Chaque famille hébreu doit immoler un agneau, c'est-à-dire le tuer, l'égorger, et marquer de son sang les portes, afin que l'ange de la mort passe au-dessus de leur maison. Cette dernière plaie brise enfin la résistance de Pharaon, qui laisse partir le peuple hébreu. Et c'est là où nous sommes. Plus 1 million de personnes sont maintenant en route hors de l'Égypte, en direction du désert, avec les enfants, le bétail, les ânes. Ils emportent les tentes, les ustensiles de cuisine, les objets précieux, de la nourriture, de l'eau, etc. C'est un grand convoi qui s'en va. On arrive donc à Exode 13. On va lire les 2 premiers versets. L'Éternel parla à Moïse et dit « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. » Et j'ai eu à cœur de m'arrêter dès le début sur ce terme, ce premier-né. Le peuple hébreu n'était pas exempt du jugement de la mort. Est-ce qu'on réalise cela? Il n'était pas en dehors de ce jugement-là non plus. La 10e plaie aurait dû aussi s'abattre sur eux. Mais c'est la grâce de Dieu qui les a gardés en vie. C'est grâce au sang d'un agneau que l'ange exterminateur est passé par-dessus leur maison et n'a pas ôté la vie. Comme nous l'avons vu avec Damien il y a 2 semaines, Dieu continue de dévoiler son plan de salut. Et ce plan-là va se révéler pleinement, beaucoup plus tard. Nous, on le sait déjà, mais pour eux, c'est beaucoup plus tard que le premier-né, Jésus-Christ, celui que Dieu s'est choisi pour sauver son peuple de la mort, va venir. Et avec ces paroles adressées au peuple hébreu, « Consacre-moi tout premier-né », Dieu préparait déjà la venue du premier-né de Jésus, le Sauveur du monde. Plus tard, Dieu remplacera les premiers-nés par les Lévites. Ah, on peut afficher nombre 3. Versets 11 à 13. L'Éternel parla à Moïse et dit : Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés, des premiers-nés des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Car tout premier-né m'appartient le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël. Tant des hommes que des animaux, ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. » Et ce sont, dans la suite de l'histoire, les Lévites qui assureront, entre autres, le service des sacrifices des animaux pour le pardon et le salut du peuple. Encore plus tard, dans le Nouveau Testament, on peut lire en 1 Pierre 2, alors, le « vous », c'est nous. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois, n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Nous sommes le sacerdoce royal. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean écrira au chapitre 1, « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. » À lui la gloire et la puissance au siècle des siècles. Que retenir de cela pour nous aujourd'hui ? Eh bien, comme nous venons à la suite du premier-né par excellence, Jésus-Christ, et parce que Jésus nous a placés en lui, dans le Fils unique, ceux que Jésus sauve deviennent ses premiers-nés, mis à part par Dieu, choisi selon le conseil de sa volonté. Nous qui croyons, nous sommes devenus ces Lévites qui lui appartiennent, que Dieu s'est consacré. Et ensemble, nous sommes destinés à servir Dieu et son Fils, Jésus-Christ. Nous avons été consacrés par Dieu lui-même pour le servir et célébrer sa gloire dès maintenant et pour les siècles des siècles. Dans 1 Corinthiens 6, au verset 19, il est dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ?» On retrouve la même notion. Dieu nous a pris et nous lui appartenons. Nous ne sommes pas juste au service du temple, comme c'était le cas dans l'ancien service sacerdotal. Donc le service que l'on peut lire dans le livre de l'Exode ou des Nombres. Mais nous sommes aujourd'hui le temple même de Dieu, c'est-à-dire là où il habite, là où il demeure. Nous sommes l'endroit même où sa présence se manifeste. Nous sommes cette suite des premiers-nés que Dieu s'est consacrée. Est-ce que tu peux dire à ton frère et à ta sœur ce matin, nous sommes consacrés par Dieu. Et ensemble, nous lui appartenons. Nous sommes le temple de Dieu et Dieu habite en nous. Et tu peux dire à ton frère et à ta sœur, tu es un prêtre ou une prêtresse. Dieu nous a appelés et il nous a mis à part. Il nous a consacrés pour que nous lui appartenions. Le point 2, on continue. Les chemins de Dieu ne sont pas ceux que nous aurions choisis. Il y en a qui ont dit Amen déjà, c'est bien. C'est pas toujours facile de dire Amen à ça. Mais pourtant, ce texte, Exode 13, 14, c'est bien ce que l'on voit. Pour sortir d'Égypte, Dieu a choisi le chemin le plus court et le plus simple. Et non. heureusement, parce que les choix de Dieu sont toujours heureux. C'est pas ça qui s'est passé. Dieu fait passer le peuple par le sud pour qu'il se retrouve coincé face à la mer Rouge. On peut lire ça en Exode 13 et on va regarder la carte. Exode 13, versets 17 à 18. « Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins. » Tu peux mettre la carte ? C'est-à-dire qu'il ne les a pas conduits tout droit. « Quoique le plus proche. » Car Dieu dit, « Le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. » Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Ah, tu peux remettre la carte ? Du coup, il est descendu. Alors là, on se dit, ah, mais il y a un trou. Mais à l'époque, en fait, le lac, là qu'on voit, était relié à la mer Rouge. Dieu ne nous conduit pas toujours vers les plaines ou les oasis dans nos vies. Il y a des saisons, merci d'avoir commencé comme cela, Anthony. Il y a des saisons où il nous conduit face à une impasse. Comme le peuple hébreu s'est retrouvé face à la mer. Ça peut en apparence ressembler à un traquenard où le doute commence à s'installer. L'incompréhension commence à dominer sur nos pensées. Et alors, beaucoup de mauvais sentiments commencent à monter. La colère, l'angoisse, l'accusation. Et en tant que bon Français, on râle. Et on râle les uns contre les autres. Et même, on ose râler contre Dieu. Et c'est exactement ce qu'il se passe ici. Le peuple est face à la mer, face à une impasse. Et en plus, Pharaon le pourchasse. Exode 14, versets 10 à 12. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en arrière, derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y a-t-il pas des sépulcres en Égypte ?» C'est des tombes. « Sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert, que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Est-ce qu'on n'est pas comme ça parfois ? Je dois le confesser. Ça m'arrive. Rappelons-nous, quand nous sommes dans une situation comparable, c'est sur ce chemin que Dieu prépare tout pour manifester sa gloire. Pourquoi ? Parce qu'il va chercher une chose primordiale dans nos vies, susciter la foi. Dieu est intéressé par susciter la foi en nous. Dieu avait tout prévu, et on va le dérouler dans la suite. Mais à ce moment-là de l'histoire, c'était pas facile. C'était pas facile. Ils avaient eu cette impression de libération pour venir être dans un traquenard, coincé, avec Pharaon qui arrive derrière. Mais avant de continuer, je voudrais vous raconter une autre histoire. On fait une petite digression. C'est celle d'une dame qui s'appelle Elisabeth Elliott. On connaît une Elliott dans l'Église. Maintenant, vous allez connaître une Elisabeth Elliott, qui a été un exemple de vie de courage, d'obéissance et de pardon. J'aurais dû mettre sa photo, mais je n'y ai pas pensé. Elle est née sous le nom d'Elisabeth Howard en 1926, donc c'est une histoire vraie, hein, dans une famille chrétienne missionnaire. Très jeune, elle ressent un appel pour les peuples qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Elle étudie alors les langues et elle veut traduire la Bible pour une tribu qui n'en posséderait pas. À l'université Wheaton, aux États-Unis, elle rencontre un monsieur qui s'appelle Jim Elliott, jeune homme passionné, radical pour Dieu, prêt à tout abandonner pour Christ. Ils se marient en 1953 et partent pour l'Amazonie, en Équateur. Ils travaillent parmi différentes tribus, mais Jim est obsédé par une vision, atteindre le peuple, difficile à prononcer, Uaorani, réputé violent et inaccessible. Les missionnaires commencent d'abord par un contact aérien. Ils déposent des cadeaux et établissent une première rencontre en personne. Tout semble prometteur. Tout commence à s'ouvrir. Ça y est, sortent d'Égypte. Jusqu'au drame. Le 8 janvier 1956, Jim Elliott et quatre autres missionnaires sont tués à la lance par des membres de la tribu Uaorani. Elisabeth se retrouve veuve à 29 ans, seule avec sa petite fille, Valérie, face à un appel brisé dans un pays étranger, au milieu de ceux qui ont tué son mari. Humainement, tout indiquait un retour à la maison, chez elle. Mais Dieu en a décidé autrement. Un choix surnaturel s'impose à son cœur. Elle refuse que la mort de son mari soit vaine. Elle refuse que la mort de son mari soit vaine. Elle étudie encore plus la langue, construit des liens avec deux femmes. Pardon, Uharani. Et décide de vivre au milieu du peuple qui a tué son mari avec sa petite fille. Cette décision, bien sûr, défie toute logique humaine. Elle écrira plus tard « Pardonner n'est pas un sentiment, c'est un acte de la volonté. » Pendant 2 ans, elle vit dans un petit village, Uharani. Elle apprend leur culture, elle partage la Bible, elle soigne leurs malades, elle écoute leurs récits, elle parle de la paix de Dieu. L'un des tueurs de son mari deviendra plus tard chrétien. Et beaucoup de cette tribu rejoindront la foi. Elle écrira « Ce n'était pas une histoire de vengeance, mais de rédemption. » Elle était connue pour aussi prêcher et son message était très clair. Obéir à Dieu, même quand on ne comprend pas. Accepter la souffrance comme faisant partie de la marche avec Christ. Faire confiance dans les voies inattendues de Dieu. Rester ferme, simple et fidèle. Elle disait souvent, Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Nos détours sont ses chemins directs. Pourquoi je raconte cette histoire ? Car c'est l'histoire d'une simple femme, avec ses qualités et ses défauts, qui a marché sur un chemin qu'elle n'aurait jamais choisi. Mais sur ce chemin, Dieu a fait une œuvre et beaucoup de personnes ont été touchées et ont été sauvées. La mer s'est ouverte quand tout semblait perdu. Et le salut est entré dans cette tribu d'Amazonie. On arrive au point 3. Dieu me guide et se place entre mes ennemis ou les situations difficiles. Et moi. Dans Exode 13, Exode 14, on voit un phénomène extraordinaire, la nuée et la colonne de feu. Exode 13, 21, 22, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Exode 14, 19 et 20. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Avant de parler un petit peu de ces colonnes, on peut commencer par se demander, mais comment Pharaon avait-il oublié les 10 plaies ? Il repart pour rattraper le peuple. Comment son cœur n'était-il pas brisé après cette dernière plaie dont Damien nous a parlé la dernière fois? Quelle dureté, quel entêtement à s'opposer au plan de Dieu et à Dieu lui-même. À l'époque de Jésus, le roi Hérode a eu la même attitude, le même cœur dur pour s'opposer à Dieu. On lit en Matthieu 2, verset 16, « Il envoya tuer les enfants de 2 ans et en dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire. » C'est comme si cet esprit existait toujours. Je crois qu'on peut enlever le « c'est comme ». De nos jours, l'esprit du monde est le même. Il manifeste cette dureté face au peuple de Dieu, face à Dieu lui-même. C'est toujours là. Et en tant que chrétiens, représentants de Dieu sur terre, c'est ce que nous sommes les ambassadeurs de Christ, nous faisons face à de nombreuses personnes avec un cœur dur, un cœur qui veut le mal, un cœur qui cherche à nuire à tout ce qui représente Dieu. On a eu, grâce à Luc, une journée, un dimanche, sur la persécution. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette slide, mais aujourd'hui, ce n'est pas en 1700, je ne sais pas quoi, c'est aujourd'hui, plus de 300 millions de chrétiens sont exposés à des persécutions, des discriminations fortes en raison de leur foi. 4476 ont été tués cette année. 7679 églises ciblées, 4744 chrétiens sont en prison. Il y a une réelle adversité. Et c'est pourquoi Dieu se manifeste et nous guide dans cette adversité. Même si parfois Dieu permet le martyre de certains, et je pense qu'il ne faut pas trop chercher à comprendre pourquoi Dieu permet cela, il est à l'œuvre pour nous protéger, nous guider et nous éloigner des situations difficiles ou éloigner les ennemis de nos vies. La difficulté, l'épreuve et le secours de Dieu sont deux réalités, mais qui coexistent ensemble. Elles ne s'opposent pas l'un à l'autre. Dieu a protégé le peuple hébreu et les Égyptiens n'ont pas pu attaquer. Amen. Face aux situations difficiles dans nos vies, nous pouvons espérer en son soutien, en son secours. Il prépare la délivrance et nous demande de lui faire confiance. Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 143, 8, 9. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Étant rempli de confiance et de foi, maintenant nous pouvons traverser. C'est le point 4. Dieu ouvre un chemin là où il n'est pas possible d'aller. Amen. Dieu ouvre un chemin là où il n'est pas possible d'aller. Exode 14, 21-22. Moïse étendit la main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce passage nous encourage à toujours garder confiance en ce que Dieu peut et va faire. Dieu a toujours une solution. Amen. Laisse-toi convaincre ce matin. Dieu a toujours une solution. Et quand elle n'existe pas, il est capable de la créer. Laisse-toi convaincre ce matin. J'insiste. Dieu a toujours une solution pour notre vie. Et quand elle n'existe pas, il est capable de la créer. Ésaïe 35, au verset 3, nous dit « Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura un chemin frayé, une route. On l'appellera la voie sainte. Amen. Dieu est capable de créer un chemin. Peut-être que cette parole est pour toi ce matin, peut-être qu'elle est pour une personne de ton entourage. Mais si tu fais face à un tsunami, à une difficulté qui se répète continuellement dans ta vie, si tu as l'impression de ne pas avoir de solution, d'être face à un mur, une mer, que tu ne peux pas franchir, ben tu es dans la même situation que ce peuple hébreu. Alors, affermis tes genoux ce matin. Prends courage. Ne reste pas dans la crainte. Dieu vient lui-même pour te sauver de cette situation. Lui, il a un chemin. Il a une solution. Il est capable de contrôler les éléments. Il envoie le vent qui t'environne. Il va faire apparaître un chemin devant toi, un chemin sécurisé, les colonnes, qui va te permettre de changer de saison et de laisser derrière toi une grosse épreuve. Au décès de ma première épouse, Astrid, jamais je n'aurais imaginé qu'il y avait une suite à ma vie. Une suite qui continue d'être remplie de tant de belles choses aujourd'hui à vivre. Pardon. Jamais je n'aurais pu imaginer rencontrer Irina, avoir Noah et Ellie, Cora et Coton, qu'il ne faut pas oublier. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'une joie immense m'attendait. Être à nouveau heureux, le bonheur d'une vie, de vivre dans une famille. Renouvelé. Mais Dieu, lui, le savait. Il avait prévu un chemin pour que je puisse continuer de marcher. Et si je suis avec vous, le cœur rempli de joie et de reconnaissance, c'est parce que Dieu a ouvert un chemin dans ma vie. J'ai pas d'action chez Kleenex ce matin. Enfin, pour finir avec ce point, c'est presque fini, je vous rassure. Quand je dis ça, il y a toujours 10 minutes. Hein. Cette traversée est aussi ultimement, bien sûr, le symbole de la traversée que nous allons emprunter, celle vers la vie éternelle. À chaque fois que Dieu nous délivre d'une épreuve, eh bien, il nous rappelle que l'ultime délivrance, celle qui sera définitive, eh bien, il l'a préparée. Il y a un chemin pour la délivrance finale, celle qui va nous libérer de la mort. Il faut passer par le seul chemin que Dieu a ouvert. Et ce chemin s'appelle Jésus-Christ. Le chemin vers la vie éternelle est à la base impossible à emprunter. C'est ce mur de la mer qui se ferme devant nous. Et il devient possible pour la seule et unique cause que Dieu pourvoie à un chemin. Et c'est ce qu'il a fait. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est le grand sujet de réjouissance du christianisme. Et nous arrivons au dernier point, Exode 15, qui est le cantique de Moïse. Loue l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent : Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Un peu plus loin, ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Et encore un peu plus loin, Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins en dansant. J'ai dit que cela nous amenait naturellement au dernier chapitre pour aujourd'hui, à la louange de notre Seigneur, car quoi que nous vivions, notre focus, notre but, nos intentions sont louer et célébrer notre Dieu. Dieu nous choisit, il nous met à part, il fait de nous ses prêtres afin que nous le louons. Dieu nous conduit parfois vers la difficulté, l'adversité, afin que nous célébrions sa gloire. Dieu s'interpose dans nos difficultés, il se met entre nos adversaires et nous, afin que nous célébrions son grand nom. Et enfin, Dieu ouvre un chemin, il fend la mer et me transporte dans l'éternité pour que nous l'adorions. En conclusion, un petit verset, je sais que c'est tard, mais je voudrais quand même qu'on prenne quelques minutes, qu'on en mange ensemble, si vous êtes d'accord. Non, celui d'avant, je ne l'ai pas mis. Celui-là, tu le gardes pour après. Colossiens 3, 17, et Henri, si tu veux bien t'avancer. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Faites tout, quoi que vous fassiez, faites tout au nom du Seigneur, en lui rendant grâce. Tu veux bien partager la parole que tu as reçue ?
Je ne savais pas de quoi Farid allait parler ce matin. C'est quelque chose que j'ai reçu durant la louange. Et merci Seigneur parce que c'est lui qui conduit toutes choses. Ce matin, dans la louange, on a chanté la sainteté de Dieu. On a déversé notre cœur. On a quelque part dit à Dieu, oui Seigneur, on veut encore plus de toi. On veut marcher dans tes pas. On veut rentrer dans ces chemins que tu as pour chacun d'entre nous. Et je crois que ce matin, dans son amour, Dieu nous met des panneaux triangulaires qui clignotent et qui disent attention. Alors attention à quoi ? Attention à nos priorités. Je pense que dans nos vies, on a vite fait de mettre en priorité nos jobs, de mettre en priorité nos familles, de mettre en priorité l'Église. On peut mettre plein de choses derrière. Et je crois que ce matin, le Seigneur veut te dire, ce n'est pas des mauvaises choses, ça. Mais la priorité, c'est moi. C'est moi, votre Dieu. Et je crois que on doit se laisser interpeller par le fait que si Dieu a voulu l'Église, c'est pour créer une relation avec chacun individuellement. Et que Dieu, quelque part, s'attend à ce que chacun de nous, on se lève et on mette Dieu en priorité dans nos vies. Le reste suivra. Mais lui, il est là et il attend. Et si nous, quelque part, ces panneaux de « attention, danger », c'est peut-être parce qu'on peut avoir tendance à se perdre dans la gestion de nos familles, de nos maisons, de nos boulots, ce que vous voulez. Attention, ne passons pas à côté de l'essentiel ce matin.
Amen. Est-ce que je peux demander à l'équipe de louange de revenir ? De reprendre soit le premier, soit le deuxième chant. Si tu fais le constat ce matin que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis est centré, non pas sur Dieu, mais sur ta propre personne, ton propre bien-être ou ta propre ambition, ben c'est le moment de demander pardon à Dieu. C'est le moment de réaliser que ce n'est pas pour cela que Dieu t'a sauvé. Dieu nous a sauvés, il nous a donné son Fils unique, Jésus, pour nous mettre à part et faire de nous ceux qui recherchent et célèbrent en première intention sa gloire, sa grâce, son amour, sa bonté, sa beauté. Avant toute autre chose. Et si alors tu décides de mettre Dieu en premier dans ta vie et que cela te conduit dans l'épreuve, c'est-à-dire te fait faire un détour, t'emmène là où tu ne veux pas aller, aie confiance. Dieu prépare de faire éclater sa gloire. Paul dira que, je ne vais pas le lire, mais vous pourrez le relire dans 2 Corinthiens 4, je vais juste lire la fin, nos légères afflictions du moment qu'il appelle, et vous pourrez lire qu'est-ce que c'est les légères afflictions de Paul, produisent au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Amen. Alors relève la tête aujourd'hui, lève les yeux vers ton Sauveur.